Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, je vais parler de The Band, qui est un groupe de rock canadien composé de Robbie Robertson à la guitare et au chant, Leven Helm à la batterie, la mandoline et le chant également, Garth Hudson qui joue des claviers, du saxophone, de l'accordéon, Richard Manuel au piano, à la batterie et au chant, ainsi que Rick Danko, qui était le bassiste, qui jouait aussi du violon et chantait. The Band, c'est un groupe qui n'est pas très très connu du grand public, pourtant il fut très célèbre à la fin des années 60 comme au début des années 70, à la fois pour ses propres albums, notamment Music from Big Pink que nous allons écouter ce soir, et The Band, qui est son deuxième album et qui fut lui aussi très réussi. Mais il fut connu aussi pour ses participations auprès de grands artistes. Au fond, c'est l'histoire d'un groupe de blues de la fin des années 50 qui décide de passer finalement au rock. Et dans leur histoire, on peut considérer qu'il y a eu quatre grandes périodes. 1958-1964, c'est la première, ce sont les débuts dans le blues essentiellement, puis progressivement dans le rock en accompagnant Ronnie Hawkins, qui est un peu qualifié d'Elvis Presley du Canadien. À ce moment-là, le groupe s'appelle The Vox. De 1965 à 1967, c'est la deuxième période, il se trouve avec Dylan, Bob Dylan, et accompagne finalement son passage au tout électrique. C'est avec eux que Dylan passera du folk acoustique au folk électrique, voire parfois au rock. La troisième période, c'est 1968 à 1976. À ce moment-là, le groupe est devenu The Band. Il tourne seul et produit 6 albums. Mais avec de nombreuses dissensions qui apparaissent très rapidement entre les musiciens. Et cette période, elle se conclut par un premier final pour le groupe, avec la parution d'un film de Scorsese, The Last Waltz. Enfin, la quatrième période, c'est un peu la plus floue, c'est de 1976 à 1999, là où le groupe a définitivement été dissous. Ça a été en fait une suite de reformations et de dissolutions, avec une lente descente aux enfers, dans les petits clubs et parfois dans des zones innommables. Et ça se termine par le suicide de Richard Manuel, qui était donc le pianiste du groupe, qui chantait souvent, qui a souvent composé des chansons pour le groupe, et qui a refusé finalement cette évidence. Et le groupe finalement se retrouve au bout du chemin. Aujourd'hui, seuls Robbie Robertson et Garth Hudson, respectivement le guitariste et aussi clavier, organiste, accordéoniste du groupe, ont survécu, mais jouent séparément et de façon très épisodique. La première chanson que nous allons écouter s'appelle « Tears of Rage », en fait « Les larmes de rage ». Elle débute donc leur premier album, « Music from Big Pink », qui est sorti en 1968. J'ai conscience que ce groupe est plus difficile d'abord que ce que nous avons écouté depuis le début de cette émission. Leur musique n'est pas joyeuse, leurs morceaux sont souvent tristes, les paroles reflètent un blues mis sur une musique presque rock, dégageant une ambiance très particulière. Et tout ça fait que le ressenti peut paraître étonnant. Pourtant, l'alchimie fonctionne. À titre d'exemple, Clapton, qui voulait à un moment donné, à la fin des années 60, faire partie du groupe, souvent dit que c'est cet album qu'il a définitivement orienté dans ce qu'il voulait faire en démarrant une carrière solo après avoir laissé tomber Blues Breakers et puis Cream. Robbie Robertson, donc le guitariste, est crédité de toutes les chansons originales de l'album. Mais il faut savoir que Richard Manuel chante le plus souvent et Devon Helm, le batteur, assure également la partie chant, ce qui fait qu'à trois, ils ont couvert à peu près la majorité des morceaux de l'album. Ce premier morceau est un premier choc quand on découvre le groupe. C'est un morceau composé par Bob Dylan pour les paroles et par Richard Manuel pour la mélodie. Elle est d'ailleurs symptomatique du jeu traditionnel développé par le groupe The Band.
Now use throw us all.
C'était donc Tears of Rage de The Band sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle The Wait. Elle était écrite par Robbie Robertson, le guitariste. Dans ce premier album, qui a été, je l'ai dit, largement acclamé à ce moment-là, l'album comprenait trois chansons écrites ou co-écrites par Dylan et les membres du band. Nous avons écouté Tears of Rage, donc en faisait partie, mais on en écoutera deux autres tout à l'heure, qui aussi viennent de Bob Dylan. Mais curieusement, c'est The Wait qui sera la plus connue, probablement même tout le répertoire du band. En plus, son utilisation dans la bande-son du film Easy Rider, si cher aux motocyclistes, fera qu'elle aura un retentissement assez important à travers le monde. Alors qu'une continuité courait traditionnellement dans la musique de l'époque, c'est-à-dire qu'un groupe avait une musique et s'en tenait généralement à son style, avec le band, on change d'une chanson à l'autre. Par exemple, la chanson de The Wait, qui est écrite donc par Robbie Robertson, comme je disais, l'histoire parle, pour en dire deux mots, d'un visiteur qui découvre Nazareth, qui est en fait une ville homonyme de celle située en Galilée où est né le Christ. La référence à Nazareth, par exemple, est incompréhensible ici. En fait, il s'agit d'une ville de Pennsylvanie et ça parle, pour l'histoire, d'un échange plus ou moins obscur avec une amie que l'auteur veut soulager de ses problèmes, tout en étant lui-même sollicité par ailleurs. Bref, c'est pas clair, sinon qu'on est en plein dans le psychédélique américain de l'époque. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que avec leur musique, qui vous le verrez est assez séduisante, eh bien, ils ont réussi le tour de force de faire une chanson bizarre, un succès. Elle a fortement pesé sur la musique de l'époque, elle eut un succès d'estime aux USA, c'est-à-dire qu'elle a atteint de bons résultats au niveau du box-office, mais c'est surtout en Europe qu'elle était très appréciée. Pour l'anecdote aussi, il existe plusieurs versions restées fameuses de cette chanson, dont une notamment par Aretha Franklin, qui a eu beaucoup de succès, et une autre avec Diana Ross, qui joue sur cette version, à la fois avec les Supremes, qui étaient donc ses consoeurs, et les Temptations. C'est Devon Helm qui est au chant, avec le bassiste Rick Danko qui l'accompagne.
Take a load off, Fanny. Take a load for free. put the load right on me. Right on me. Crazy Chester followed me and he cut me in the fall. He said, I will fix your rat if you take Jack my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can?
Yeah, take a load off Fanny, take a load off Free, take a load off Fanny.
And you put the load right on me.
C'était Long the Wait par The Band sur OxyWeb Radio. L'enregistrement de Music from the Big Pink débuta après la fin des sessions passées avec Dylan, assez connu sous le nom The Basement Tapes, qui se terminèrent en octobre 1967. Devon Helm, qui était absent jusque-là, les rejoignit à ce moment-là dans l'enregistrement. Et The Ox, parce que c'était encore le nom du groupe à l'époque, commença à écrire ses propres chansons dans cette maison, surnommée Big Pink, et qui se trouvait finalement très proche du studio d'enregistrement de Bob Dylan. Et ça explique donc le titre de l'album. Quand ils sont entrés dans le studio d'enregistrement, ils n'avaient toujours pas de nom pour eux-mêmes. L'histoire varie quant à la façon dont ils ont finalement adopté le nom The Band. Dans le film The Last Waltz, Richard Manuel prétend que, au départ, ils voulaient s'appeler The Honkies ou The Crackers, qu'ils utilisaient souvent quand ils soutenaient Dylan en concert. Et parfois, c'est des noms qui faisaient penser et rendaient hommage à Woody Guthrie. Mais ces noms ont été rejetés par le label. Robbie Robertson affirme, lui, toujours dans le même film, que pendant le temps où ils accompagnaient Dylan, le public les surnommait le groupe, ou The Band, et ils ont dit, on va garder ce nom. Au départ, ils détestaient à l'époque de Dylan ce surnom, mais finalement, avec le temps, voyant l'estime qu'il recueillait auprès du public, ils ont apprécié ce nom et l'ont définitivement adopté. Écrit par Richard Manuel, le morceau suivant, We Can Talk, que nous allons écouter, est chanté par les trois chanteurs principaux du band, Richard Manuel, Levon Helm et Rick Dango, autour pratiquement égaux, c'est-à-dire chacun leur tour, finissant souvent des expressions de chacun. Au début de leur concert, c'était le premier morceau interprété. Exemple, à Woodstock, où ils ont joué, ainsi qu'au Festival de l'île de Wight 1969, ils ont absolument joué ce morceau, commencé le concert avec ce morceau. Et puis, progressivement, avec le temps, ce morceau a été écarté à partir de 1971.
Thanks.
C'était We Can Talk de The Band sur OxyWeb Radio. Avec le succès de Music from Big Pink, The Band part en tournée. Leur première apparition sur scène se passe à l'université Stony Brook au printemps 1969. Cet été-là, ils ont également joué au festival de Woodstock, même si leur performance n'a pas été inclue dans le célèbre film de ce festival, en raison de complications juridiques. Et plus tard, toujours en 1969, ils ont joué avec Bob Dylan au Royaume-Uni, et notamment à l'île de Wight, dont plusieurs chansons ont fait par la suite l'objet de l'album de Dylan, Self Portrait. Donnant une image de groupe rustique, dont le meilleur exemple est la couverture de leur deuxième album, où on voit vraiment des gens habillés différemment de ce qu'est la mode à ce moment-là, cette apparence vaut aussi pour leurs chansons, qui contrastent avec ce qui se fait dans la production de l'époque. Alors ils évoquaient le Far West, l'Amérique rurale ancienne, la guerre civile ou la syndicalisation des travailleurs agricoles. La chanson que nous allons écouter maintenant s'appelle The Long Black Veil ou Le Long Voile Noir. C'est une ballade country datant de 1959, écrite par Denny Hill et Mary Joan Wilkin. À l'origine, elle fut enregistrée par Lefty Frizzell, qui est un nom très peu connu en Europe. Elle donne le point de vue en fait d'un homme exécuté faussement, accusé d'un meurtre, car il a refusé de fournir son alibi. En effet, la nuit du meurtre dont il est accusé, il avait en fait une affaire avec l'épouse de son meilleur ami. Et il préféra mourir plutôt qu'avouer son secret qu'il emportait avec lui dans sa tombe. Le refrain décrit le deuil de la femme de l'ami sur sa tombe, portant un long voile noir et pleurant, ballotté par le vent. Cette chanson eut plus d'une dizaine de reprises aux États-Unis, dont une par John Baez et une autre par Johnny Cash.
And they all did agree
C'était Long Black Veil par The Band sur OxyWeb Radio. Les deux premiers disques de The Band ont été produits par John Simon, qui était pratiquement un membre du groupe. Il a aidé aux arrangements et a joué occasionnellement sur des instruments tels que piano ou le tuba. À la question qui lui a souvent été posée à propos de la section des cuivres qui sont très caractéristiques de la musique du band, et notamment sur ses premiers albums, il répondait qu'en plus de Garth Hudson, qui est lui un saxophoniste accompli, les autres n'avaient que des compétences rudimentaires en matière de cuivre. Et en fait, tous produisirent leur sonorité simplement en utilisant de façon créative leur technique limitée. Cette sonorité est la marque de fabrique du band et qui a tant marqué sa époque. Ainsi, Chess Fever, qui est la chanson suivante que nous allons écouter, c'est-à-dire La fièvre de poitrine, est exemplaire dans le répertoire du groupe. La musique a été écrite par Robbie Robertson, le guitariste. Les paroles lui sont aussi créditées, alors que Richard Manuel et Levon Helm ont souvent dit que, en fait, elles ont été improvisées pour coller au mieux à l'orchestration musicale, sans qu'il y ait un véritable sens donné aux paroles. Et Robbie Robertson, plus tard, le reconnut mollement par la suite, en déclarant effectivement ce texte assez absurde, mais en revanche très adapté à la musique. Pour l'anecdote encore, le band a commencé son concert à Woodstock avec ce morceau, qui figurera aussi dans The Last Waltz, et ça permet de mettre en évidence Garth Hudson, qui assure l'introduction du morceau, et qui était en fait le seul véritable musicien professionnel de formation classique qui, pour faire accepter sa venue dans le groupe par ses parents, exigea de toucher un salaire de la part du groupe.
Don't
C'était Chest Fever par The Band sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle Lonesome Susie, c'est un peu Susie la solitaire si vous voulez, a été écrite et chantée par Richard Manuel. C'est une des chansons qui a le plus marqué l'époque. Pourtant, le batteur, Levon Helm, voit que cette chanson, en fait, était un essai raté de la part de Richard Manuel, qui espérait faire un disque solo à lui tout seul. Et cette chanson faisait partie du projet. En fait, il n'a jamais réussi à faire un dossier complet pour déposer les droits de cette chanson. Et c'est une des quelques chansons dont pourtant Richard Manuel est crédité être l'auteur à la fois des paroles et de la musique. Jusque-là, il assurait plutôt la composition de la mélodie. Ici, en plus, au niveau du chant, il joue à la fois deux voix, une masculine et l'autre plus aiguë, donc plus féminine. Le chant émouvant de Richard Manuel est caractéristique de cette chanson. La place de la guitare également, jouée de manière simple par Robbie Robertson, elle se mélange bien au subtil support assuré par les autres membres. Et c'est un peu la grande richesse de The Band, et c'est ça qui a bien marqué les époques et qui donnera le sentiment à beaucoup de monde que c'est la voie à suivre en matière de support, on va dire, inspiré du blues, mais dans une acception plus rock. La chanson parle d'un échange entre un narrateur et une femme apparemment préoccupée qui espère trouver un ami, voire un amant, tout en essayant de résister à cette idée. Le narrateur offre son appui à cette femme, mais pas forcément d'une façon très appropriée. En fait, il lui dit qu'il connaît quelqu'un qui pourrait très bien faire l'affaire, et en réalité, il essaie en fait de convaincre la femme de s'unir à lui, d'où l'ambiguïté dans les paroles. En 1970, ce morceau fut interprété par le groupe Blue Sweat and Tears sur leur troisième album et obtint un certain succès avec.
Stand.
C'était Lonesome Susie par The Band sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle This Wheel's on Fire, ou Cette roue sur le feu. C'est une chanson écrite par Bob Dylan et Rick Danko. À l'origine, elle fut enregistrée par Dylan avec le band durant les enregistrements de 1967 que j'évoquais tout à l'heure. Et le groupe décida de la reprendre à leur compte dans cet album. Rick Danko a raconté comment la chanson a été écrite. En fait, nous venions ensemble chaque jour au studio et le travail avec Dylan progressait. Un jour, il m'a donné des textes tapés à la machine, dont cette chanson. À ce moment-là, j'apprenais à jouer du piano et je me suis mis à travailler sur ce morceau pour le faire coller aux paroles que Dylan avait créées. Et Dylan, voyant les progrès de Rick Danko, se décida à se joindre à lui pour finir le morceau et notamment écrire avec lui le refrain. Danko a continué à jouer cette chanson en concert, même durant sa carrière solo par la suite, et a même enregistré une nouvelle version en studio avec Garth Hudson à l'accordéon. Garth Hudson a également enregistré une nouvelle version en studio lors de la préparation d'une célébration de l'œuvre du band parue en 2010. Levon Helm, qui assure l'harmonie, c'est-à-dire les chœurs avec Rick Danko sur la chanson que nous allons entendre, a employé le titre de cette chanson pour son livre autobiographique en le nommant This Wheel's on Fire, Levon Helm et l'histoire du band en fait. Il a également joué cette chanson durant toute sa carrière solo, jusqu'à peu de temps avant sa disparition, survenue en 2012. Et même Bob Dylan continue à jouer cette version, et notamment à la période entre 1996 et 2012 également. If your memory serves you well, we're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter what, we'll come to you with another tale to tell. C'était This Wheels on Fire par The Band sur OxyWeb Radio. La dernière chanson que nous allons écouter dans cet album s'appelle I Shall Be Released. C'est une chanson composée par Bob Dylan en 1967. Mais c'est le band qui a enregistré la première version officielle de cette chanson lors de ce premier album. C'est Richard Manuel qui assure le chant, Eric Danko et Levon Helm qui en assurent le refrain. Bob Dylan a enregistré de son côté deux versions initiales, l'une avec le band, l'autre avec un autre groupe ultérieurement. Inspirée du gospel, elle combine l'idée de la rédemption religieuse et de la libération du péché avec celle implicite de la prison. Elle est considérée comme une chanson sur le rachat des prisonniers. La prison et plus généralement la cruauté du système judiciaire est un leitmotiv dans la carrière de Bob Dylan. Mais Bob Dylan élargit surtout l'idée de l'emprisonnement à l'envie de liberté. La libération dont il parle ici et que fait résonner Richard Manuel avec sa voix ne vient pas des simples barreaux de prison, mais plutôt de la cage que représente une existence physique. La même cage que peut ressentir en fait tout un chacun dans sa vie. Cette chanson fut reprise aussi de multiples fois aux États-Unis, notamment avec John Baez, The Hollies, Nina Simone, Chrissy Hynde et même Stephen Eicher en France lors d'un taratata en 1995. Je vous propose d'écouter I Shall Be Released.
My light comes.
c'était I Shall Be Released par The Band sur OxyWeb Radio. Dans le groupe qui existe depuis la fin des années 50, dès ce premier album, pourtant, on sent les tensions qui commencent à se faire sentir entre les musiciens. Exemple, beaucoup de chansons sont créditées de Robbie Robertson et lui donnent quelque part l'aura d'un leader, ce qui n'est pas la réalité. En fait, la plupart des chansons sont composées par l'ensemble du groupe. Ce leadership pèsera dans l'existence du groupe et pourtant, il ne fera que s'affirmer avec le temps. Robbie Robertson est toujours en proie à de nouvelles idées. Simplement, les albums qui suivent sont assez décevants. Je pense notamment à Cahoots en 1974, qui fait que Dylan se sent obligé de les repêcher et de les prendre avec lui pour sa tournée américaine, qui, elle, va connaître un immense succès. Ça donne un peu le boost au groupe, qui sort un nouvel album en 1975, Northern Lights, Southern Cross. Cet album retrouve un peu les qualités du début, mais sans en atteindre la perfection. Robbie Robertson décide alors de s'aborder le groupe et dit qu'il ne veut plus tourner. D'où l'idée du concert d'adieu filmé le 25 novembre 1976 au Winterland Ballroom, qui sera immortalisé par le film The Last Waltz de Martin Scorsese. Le gratin du rock se joint à la cérémonie, si j'ose dire. Bob Dylan, bien sûr, qui clôturera le show. Mais on y trouve aussi Eric Clapton, Neil Young, Muddy Waters, Van Morrison, Joni Mitchell, Neil Diamond, Ringo Starr, Emmylou Harris, Van Morrison, ainsi de suite. Cette liste non exhaustive démontre l'influence et le poids réel de ce groupe auquel Clapton rêvait de faire partie. Cette musique, tirée du blues, mais attirée par le rock, est compatible avec le folk rock et la country, et la meilleure synthèse, finalement, de toutes ces musiques de la fin des années 60. Nous en avons donc terminé avec The Band, et je vous propose la semaine prochaine de découvrir ce qui va commencer à représenter l'explosion de la musique moderne, de ce qu'on a appelé la musique pop, avec un premier groupe, pour qui ce n'est pas le premier album, mais c'est le premier qui aura un véritable retentissement et un véritable succès commercial. Je parle de Ten Years After et son fameux leader Alvin Lee, et également de cet album Cricklewood Green, qui a eu énormément de succès. C'est la première matérialisation de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent a provoqué. Mais d'ici là, roulez blues!